Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Tatiana Giraud. Tu es biologiste.
Oui.
Biologiste spécialisée dans, on peut dire, dans la biodiversité.
Oui, dans l'évolution.
Et tu as participé, entre autres, à l'élaboration de ce rapport sur les femmes et les sciences. J'aimerais qu'on discute, si tu le veux bien, de ce qu'il y a de spécifique en biologie, et peut-être même en biologie de l'évolution, de l'écologie dont tu parles. Alors d'abord, en biologie, n'est-ce pas, il y a une caractéristique, c'est qu'il y a déjà la parité, en quelque sorte, numériquement, mais ce qui pêche, c'est le plafond de verre.
Voilà, exactement. Donc il y a autant de femmes que d'hommes, voire plus, qui commencent initialement leurs études en biologie. Et puis petit à petit, on monte déjà pour le recrutement en tant que chercheur, et puis après, pour les promotions, il y a un étiolement, un peu ce qu'on appelle un tuyau percé, où il y a de moins en moins de femmes et la parité n'est plus du tout là aux postes à responsabilité ou aux promotions les plus élevées.
Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis?
Est-ce que tu penses qu'à l'intérieur de la biologie, il y a des nuances sur ces questions?
Alors c'est une bonne question, oui. Si on regarde la biologie générale, ma vision personnelle, qui est peut-être biaisée, c'est qu'effectivement dans les sciences de l'écologie et de l'évolution, il y a peut-être moins ce plafond de verre où la place des femmes est peut-être plus reconnue, mais il y a quand même toujours cet étiolement des femmes au fur et à mesure qu'on monte dans les promotions.
Est-ce que tu te décrirais comme une féministe militante?
Je pense que j'ai beaucoup évolué aussi personnellement là-dessus. Pendant longtemps, j'avais plutôt la position que c'était mieux de ne pas faire de vagues pour juste montrer les compétences. Et en fait, on se rend compte que ça suffit clairement pas, qu'on a beau montrer objectivement des compétences, il y a des biais intrinsèques de perception, il y a des résistances, et que, en fait, si on veut faire bouger les choses, ben, on est obligé un peu d'être une emmerdeuse.
Très bien, donc tu assumes ton côté d'emmerdeuse.
Maintenant, oui.
Son gilet. Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo?
Alors, comment tu emmerdes les hommes?
C'est en disant les choses. On entend encore beaucoup que, déjà ne serait-ce que le fait que certains disent qu'il n'y a pas de problème, en soi déjà, c'est presque ça peut être perçu comme une agression, et quand on ressent personnellement qu'il y a vraiment un problème.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'il n'y a pas de problème?
Ben oui, étonnamment. Et de femmes aussi d'ailleurs.
Ah oui? Ah bon? J'avais l'impression du contraire.
Même ici, ce que fait beaucoup l'Académie, de favoriser les candidatures féminines, on entend beaucoup que c'est que la science qui compte, on doit regarder objectivement. Mais rien que de dire ça, c'est oublier le fait qu'il y a des biais cognitifs qui favorisent les candidatures masculines.
Est-ce que je peux préciser ma question? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui disent qu'il n'y a pas de problème?
Alors, il y en a encore, oui, il y en a encore pas mal. Dans mon laboratoire, j'entends en salle café des jeunes hommes qui disent « Non, mais maintenant, il n'y a plus de problème », en reconnaissant qu'il y en a eu par le passé et que maintenant, ils ont leur vision, soit qu'eux ont l'impression de ne pas faire de distinction ou ont l'impression qu'il n'y en ait pas, et ils ne se rendent pas compte à quel point, en fait, ils bénéficient de ce système biaisé.
Vous mariez pas, les filles, vous mariez pas.
Tu sais, il y a le rapport de l'Académie des sciences qui est prêt ou qui va être publié bientôt. Et avant de la publier, on l'a envoyé à des sociologues qui ont envoyé très récemment leurs commentaires. Et un commentaire m'a étonné, j'aimerais avoir ton point de vue. Le commentaire, c'est « Arrêtez de parler des biais cognitifs, parce que les biais ne sont pas la cause, ce sont les conséquences. » Que penses-tu de cette affirmation?
Alors, c'est intéressant, il faudrait essayer de voir pourquoi il dit ça exactement. Qu'effectivement, c'est sûrement la conséquence de certains processus, mais aussi la cause d'autres phénomènes. C'est-à-dire que c'est clairement une cause du fait qu'il va y avoir des recrutements ou des promotions biaisées, par exemple. Mais clairement, ces biais cognitifs sont une conséquence déjà d'autres biais qui existent dans la société. Moi, je me rends compte, même personnellement, que je suis biaisée. Des fois, je me suis rendu compte avec effarement, des fois dans des réunions, où pendant toute la réunion, j'ai pris une femme à un poste de responsabilité pour la secrétaire. Mmh. Parce que dans ma tête, ça ne pouvait pas être une femme qui était à un poste de doyen ou un poste haut placé. Et donc, dans ma tête, inconsciemment, ça ne pouvait être que la secrétaire. Et donc, on a un biais cognitif qui sont le résultat du fait qu'on voit à des postes de responsabilité tout le temps des hommes. Donc, inconsciemment, on perçoit cette compétence, cette responsabilité comme étant l'apanage des hommes. On l'intègre et ça nous fait un biais cognitif, mais qui est lui-même la cause après de biais de recrutement ou de promotion.
Chez un bougna, élever des singes, élever des chats, lever la patte à l'opéra, vendre des boîtes de chocolat.
Alors maintenant qu'on a discuté des causes, etc., toi tu dis que tu es emmerdeuse, j'aime bien cette expression. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu proposes concrètement? Comment est-ce qu'on peut emmerder le monde pour régler le problème?
Donc déjà, faut le dire aussi souvent que possible. Il y a des solutions qui sont mises en place, par exemple, là dans les sections du CNRS qui recrutent en écologie et en évolution. Ils ont mis en place des systèmes, je trouve, très malins et vraiment bien pensés pour corriger ces biais. Par exemple, ils font un jour d'audition où c'est que des candidats femmes. Et un jour d'audition, c'est que des candidats hommes, pour éviter la comparaison et les biais d'un candidat à l'autre concrètement.
Maintenant, on s'approche un peu des questions de quotas. Je vais donner un exemple. Vendredi, j'étais dans une classe de 6e. Je discutais de mathématiques et démocratie et comment marchent les élections, etc. On a parlé des élections de délégués de classe. Et les élèves étaient partagés sur la question de savoir s'il fallait un délégué garçon et un délégué fille ou pas. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que dans les classes, il faut un délégué pour les garçons et un délégué pour les filles?
Donc c'est pareil, je pense que j'ai pas mal évolué là-dessus. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il n'y a pas besoin de compta parce qu'il suffisait de montrer des compétences et qu'en appuyant sur les choses... objectivement, on arriverait à une parité. Et puis en fait, ces biais, c'est ce qu'on vient de discuter, des causes et des conséquences. En fait, ces biais s'auto-perpétuent. Donc à un moment, si on veut changer les choses, j'ai l'impression qu'il faut faire, alors peut-être pas des quotas fixes, mais ce qu'on fait à l'académie, je trouve ça vraiment bien. Par exemple, obliger d'avoir au moins certaines candidatures féminines, au moins. Enfin, vraiment des mesures qui favorisent vraiment la parité. Et ça peut aller jusqu'au quota. Hein. Je deviens de plus en plus favorable au quota.
Que penses-tu de ce que font les Anglais, d'après ce que j'ai compris, qui forcent les scientifiques anglais qui participent à des comités d'élection ou de sélection à prouver qu'ils ont suivi auparavant une formation contre les biais sexistes?
Moi, je trouve ça une très bonne idée. Et pareil pour les comités de recrutement et de promotion, ça devrait être effectivement obligatoire parce que tant qu'on ne se rend pas compte de ces biais, c'est vraiment difficile et comment ça fonctionne, c'est vraiment difficile d'arriver à même soi-même de les contrer, de se rendre compte à quel point on est biaisé. Il y a aussi des petits tests où on peut regarder assez facilement soi-même sur Internet à quel point on a une perception biaisée et avec des choses où on ne peut pas tricher comme la vitesse de réponse quand on associe le côté féminin et science versus côté masculin et artistique. Et on se rend compte à quel point on met beaucoup plus de temps à associer quand c'est féminin et science que quand c'est masculin et science, par exemple. Mmh. Et se rendre compte à quel point on est biaisé et notre perception, forcément, ça nous ouvre l'esprit sur comment on juge des candidatures. Ouais.
Gaga, soyez radeuse, avenue du bois, mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas.
Est-ce que ça veut dire que tu penses que être féministe, ça veut dire que les femmes et les hommes font de la science de la même manière?
Non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on cherche la parité? Voilà, il y a des fois des gens, des hommes qui disent on s'en fiche de la parité tant qu'on fait de la bonne science, peu importe. Effectivement, la question c'est est-ce que c'est bien la parité par justice? Parce qu'il y a des femmes qui veulent faire de la science et...
Parce que c'est la moitié de la population humaine.
Voilà, et qu'on n'a pas le droit de leur retirer... Enfin, de quel droit on leur retirait ce droit simplement basé sur leur genre. Donc c'est de la justice pure et simple. Il y a des arguments sur le fait que c'est globalement mieux pour la science parce qu'on fait la science différemment. Et j'ai tendance à penser que c'est pas faux.
Ah, tu penses que c'est pas faux?
Ouais, je pense que c'est pas faux.
Donne-moi des exemples.
Alors, ça répond pas directement à la question, mais j'ai une anecdote de quand j'ai commencé moi à faire de la recherche, où donc j'étais en thèse, donc j'avais publié mon premier papier article scientifique qui avait pas plu à un vieux chercheur du laboratoire, et qui est arrivé comme une furie dans le laboratoire en hurlant que voilà ce qui arrive quand on laisse les femmes faire de la recherche.
Ouf.
Heureusement, mon directeur de thèse à l'époque a hurlé de rire, ce qui a réduit la pression et montré que c'était n'importe quoi. Mais voilà, c'est quand même. Donc déjà, il pensait que les femmes faisaient de la science différemment.
Ça t'a ébranlé ?
Ben non, heureusement, grâce à l'attitude de mon directeur de thèse, qui est clairement a montré que c'était lui qui disait n'importe quoi. Mais enfin, ça aurait pu.
Est-ce que tu es en train de dire que l'article en question était plutôt un article plus féminin, une approche plus féminine de la science ? Ça m'étonne quand même, non ?
Non, en l'occurrence, c'était vraiment juste parce que c'était une approche basée sur des marqueurs moléculaires et pas des caractères taxonomiques pour décrire les espèces. C'était plutôt de la nouveauté.
C'était la biologie contemporaine par rapport à l'ancienne. D'accord, moi je vois, d'accord.
Alors, j'ai pas d'exemple concret sur comment les femmes auraient une approche. Par contre, c'est plus l'aspect de travailler en équipe, ou clairement avoir une mixité, je pense, apporte beaucoup. On ne travaille pas de la même façon que dans des équipes où il n'y a que des hommes et versus des équipes où il y a de la parité. Et on voit dans les laboratoires justement d'écologie d'évolution où il y a plus de femmes qui dirigent et plus de parité, que les relations globalement peuvent être plus apaisées, vraiment différentes.
Tu n'as pas vraiment répondu à la question. Quota, pas quota ?
Donc je suis de plus en plus favorable.
Quota, par exemple, au CNRS, par exemple, pour recruter des jeunes chercheurs ?
Oui, je pense que... Et je ne vois pas en quoi ça serait gênant. Il y a beaucoup de femmes excellentes qui postulent autant que d'hommes.
Est-ce que c'est si vrai que ça ? Parce qu'on a aussi ce biais qui est assez courant, que beaucoup de femmes n'osent pas candidater à une promotion, alors que les hommes, ils y vont sans trop se préoccuper de leur légitimité.
Oui, je pense qu'il y a clairement ce facteur-là.
En tout cas, c'est très clair en maths. Il y a très, très peu de femmes directeurs de recherche parce que, tout simplement, elles n'osent pas. Oui. Tu constates la même chose en biologie ?
Oui, je pense que quand on essaye d'inciter des femmes à postuler, souvent elles disent non, je n'ai pas encore le niveau, je pense qu'il faut encore que j'attende quelques années.
Au cabaret, un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence. Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches.
J'ai discuté très récemment avec une biologiste aussi qui me disait qu'il y avait un problème de moment d'entrée dans la carrière et que. Il y a 30 ans, on était débutant au CNRS à 25 ans. Maintenant, c'est à 35 ans. Et donc, on a ce décalage qui se produit inéluctable dans toutes les disciplines et qui complique la vie de la femme débutante.
Oui, clairement, c'est de pire en pire. Alors, ça l'a toujours été. Donc, c'est aussi un point que je pense qui est vraiment important. C'est que tant qu'on n'a pas la parité dans la société, aussi globalement, pas que en sciences, c'est beaucoup plus dur pour des femmes. Parce que même dans d'autres métiers, dans le privé, par exemple... Un homme qui part parce que son enfant est malade ou qui doit partir aller chercher ses enfants à l'école plus tôt, c'est très mal vu, beaucoup plus mal vu que si c'est un homme. Et donc, toute la charge repose plus sur les femmes, et en particulier dans le milieu académique où il y a plus de liberté au niveau des horaires, etc., la charge incombe beaucoup plus aux femmes, et forcément, ça recule la carrière à tous les niveaux. Et là, c'est encore pire si l'âge de recrutement est encore plus reculé. Les femmes doivent faire un choix entre vie de famille et vie scientifique. Et c'est encore une fois pas juste de leur imposer ce choix-là.
Et se redresser l'air bravache. Vous mariez pas les filles, vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia. Changez d'amant 4 fois par mois, prenez la braise.
Il y a une dernière question que je vais vous poser. C'est que là, on est en train de parler des femmes dans la science, dans le milieu de la recherche, qui est une toute petite partie de la société. Et le problème des femmes dans la recherche, c'est bien sûr totalement lié au problème des femmes dans la société en général. Donc il faut qu'on puisse régler ces choses-là de manière plus globale. Est-ce que tu ne crois pas qu'il faut commencer par l'école primaire ?
Oui, plus on commence tôt, mieux c'est. Donc, après, à l'école, effectivement, ça va être former les esprits, mais tant qu'ils ont des modèles dans la société, ça imprime quand même le cerveau. C'est-à-dire, tant qu'ils voient que c'est leur mère qui va les amener chez le pédiatre, qui va les chercher à l'école, qui fait la cuisine le soir, parce que le père n'a pas pu partir plus tôt du travail, c'est, même en éduquant à l'école primaire, ça sera difficile.
Fraîche sous votre là, à 50 ans, ça servira à vous payer de bons petits gars.
On va terminer. Donne-moi une ou deux mesures qu'il faut prendre d'urgence.
Une des choses, ça serait vraiment d'avoir un support concret et fort pour des jeunes femmes qui veulent faire des enfants. Donc, par exemple, moi, d'avoir eu une technicienne pendant mon congé maternité et après, ça a été absolument essentiel. Parce que sans ça, j'aurais eu plein de projets qui seraient arrêtés.
C'est assez lié à la biologie quand même. Parce que si tu dis ça à un mathématicien, il n'a pas un technicien ou une technicienne qui peut l'aider quand il n'est pas là. Parce que quand il n'est pas là, bah, ça n'avance pas, quoi, d'accord. Mais en biologie, c'est tout à fait différent. Oui. En fait, on se rend compte que les problèmes sont très différents en fonction des disciplines. Alors maintenant, pour la société, comme tu dis que tu es militante, la prochaine manif à laquelle tu vas participer, ça sera quoi le mot d'ordre,
hein? Et donc, je pense qu'il faudrait vraiment, alors je ne sais pas à quel point c'est faisable, mais par exemple, obliger que dans les entreprises, etc., l'homme prenne un congé paternité aussi long que les congés maternité, parte chercher ses enfants à l'école aussi souvent que les femmes, pour vraiment équilibrer à ce niveau-là un maximum.
Obligé.
Ah,
mais c'est une révolution. Je suis obligé par la loi. Voilà, je te vois très bien. Tu es très, très optimiste et très idéaliste. Tu crois que c'est faisable?
C'est difficile. C'est difficile.
Tu as des enfants?
Oui, deux.
Et alors, ton conjoint, il va les chercher à l'école?
Ben non.
Je vois.
Non. Parce que c'est mal vu.
Parce que c'est mal vu. Ah oui, c'est l'heure des mamans?
Oui, c'est mal vu par l'entreprise. Qui,
de bons petits gars, rien dans la tête, tout dans les bras, à la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas, si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas.
Merci Tatiana pour cet entretien. J'espère que vous avez aussi apprécié « Ne vous mariez pas les filles », parole de Boris Vian, 1964, chantée par Michel Arnaud. Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants.
Petite histoire de science. Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.